opération d'entrée en scène désormais pour aider les migrants dans leur démarche.
Pas un siège de libre dans cette association pour immigrés située dans le sud de Madrid, où des dizaines de personnes en situation irrégulière attendaient d'être reçues par une assistante sociale. Pour Maria Sanchez, coordinatrice sociale, une course contre la montre vient de commencer pour remplir les dossiers.
Radio G, 101.5 FM.
Toutes et à tous, et bienvenue dans Onde Positive, votre émission du vendredi matin dédiée à la santé sexuelle, à la prévention et à la vie affective sur Radio G. Moi, c'est Alima et je suis avec Florian. Bonjour Florian.
Bonjour Alima.
Et comme toutes les deux semaines, le vendredi matin à 9h10, on vous aide à prendre soin de votre corps et de votre intimité dans la bonne humeur et de façon positive. Alors si vous êtes à Angers, vous pouvez comme toujours nous écouter sur le 101.5 FM ou en DAB+, mais vous pouvez aussi nous écouter depuis n'importe où sur le site radio-g.fr. Aujourd'hui, on va commencer par un petit point actu avec des nouvelles qui pour certaines sont bonnes et d'autres moins bonnes.
Oui, pas toujours facile de rester positif dans le contexte actuel à Lima, puisque tu vas nous parler de la fermeture prochaine du local de l'association Aide à Angers. Mais tu vas aussi nous parler de l'arrivée de la PrEP, le traitement préventif contre le VIH en version injectable.
Oui, et toi Florian, tu vas nous parler des hépatites, ces maladies infectieuses du foie transmises par des virus qui sont beaucoup moins connues que les autres IST et qui sont souvent insidieuses car sans symptômes. Il est donc important d'avoir quelques infos clés pour mieux s'en protéger. Et tu vas nous aider à en savoir plus et à y voir plus clair, Florian.
Tout à fait.
Alors restez bien avec nous, car c'est tout de suite dans Onde Positive. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Florian, tu vas nous en apprendre plein de choses sur les hépatites.
Oui, mais on fait d'abord un point sur l'actu.
C'est ça. Alors, on va commencer par l'info positive du moment. C'est la PrEP injectable qui arrive enfin en France. Alors, la PrEP, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes. C'est ce qu'on appelle un traitement préventif contre le VIH. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le VIH, mais que vous êtes exposé à des risques de contracter le virus, eh bien vous pouvez prendre la PrEP et ça vous protège du VIH.
Alors jusqu'à présent, seule la PrEP par voie orale existait, c'est ça ?
Voilà, et il s'agissait d'un comprimé à prendre soit tous les jours, soit quelques heures avant une prise de risque. Alors pour certaines personnes, c'est un mode d'administration qui convient bien à leurs habitudes et leur mode de vie, mais pour d'autres, c'est plus compliqué.
Oui, c'est un peu comme la pilule, il y a des risques d'oubli.
Oui, par exemple, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles la prise orale peut être plus compliquée. Il y a parfois aussi tout simplement des contre-indications médicales à la PrEP orale, donc la PrEP injectable peut être une alternative très intéressante. Et tu avais justement parlé de ça, mais pas pour la PrEP, mais pour le traitement VIH injectable dans notre émission consacrée aux innovations thérapeutiques pour le VIH. C'était notre émission du 6 février que vous pouvez réécouter en allant sur le site radio-g.fr, rubrique onde positive, et tu donnais le nom de la molécule d'ailleurs.
Oui, c'est le cabotegravir, mais le nom commercial en fait c'est Apretude.
Donc le nom commercial de la PrEP injectable. Donc là, avec la PrEP injectable, fini la prise quotidienne, une injection tous les deux mois suffit. C'est ce qu'on appelle un traitement à longue durée d'action.
Voilà. En fait, c'est une injection intramusculaire, donc dans la fesse ou le haut de la cuisse. Alors évidemment, vous n'allez pas vous faire ça vous-même. Hein. Il faut se rendre à l'hôpital tous les deux mois pour recevoir votre injection ou alors faire réaliser cette injection par un infirmier ou une infirmière ou par le médecin.
Un rendez-vous, donc, une fois toutes les deux mois, ben, c'est quand même un sacré progrès. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce sera pris en charge à 100% par la Sécurité sociale.
Alors, il y a quand même un bémol. C'est qu'avant de recevoir ces injections, il va falloir faire un test de charge virale du VIH. Et dans le cadre de la PrEP, ces tests ne sont pas toujours pris en charge à 100%. Alors il peut y avoir un reste à charge pour vous, qui peut être couvert quand même par une mutuelle, hein, si vous en avez une. Mais ça dépend où vous faites votre test. Dans certains CEGID, donc ce sont les centres gratuits de dépistage, et certains centres de santé sexuelle, c'est bien pris en charge à 100%, donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet.
Oui, et ces tests de charge virale sont importants. Parce qu'en fait, ils permettent de s'assurer que vous n'avez pas contracté le VIH sans le savoir avant d'initier votre parcours PrEP. Parce que dans ce cas-là, si on le découvrait après avoir commencé à prendre la PrEP, ça pourrait vous rendre résistant à certains traitements. Donc, c'est pas le but, évidemment. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par la PrEP orale ou injectable, parlez-en à votre médecin ou rendez-vous au CEGID, le centre de dépistage gratuit du CHU d'Angers.
Alors ça, c'était la bonne nouvelle. Mais voilà. Il y a aussi une plutôt mauvaise nouvelle quand même. Donc l'autre grosse info du moment, c'est malheureusement la fermeture définitive du local de Aide à Angers à la fin du mois d'avril.
Oui, Aide, c'est l'une des principales associations qui est dédiée à la prévention et à la lutte contre l'épidémie de VIH et d'hépatite virale en France. C'est même la plus grande, je crois. Moi, je suis bénévole dans cet asso depuis plusieurs années. Et toi aussi, Florian, tu as une longue histoire avec Aide, non ?
Alors oui. Effectivement, je dois dire que c'est assez difficile de recevoir cette nouvelle sans émotion, quand pour ma part j'y ai milité pendant 12 ans. Alors ça a été de nombreuses heures d'implication bénévole pour soutenir des actions d'écoute et de prévention auprès des personnes les plus concernées. Ça a été de très beaux moments d'engagement avec tous les militants militantes et toutes les personnes qu'on a pu accueillir au local. Voilà, c'est ainsi le désengagement de l'État aujourd'hui.
Exactement. Donc c'est vraiment une des assos les plus emblématiques, hein, avec ACT UP, le site d'action. Elle était implantée dans de nombreuses villes du territoire français depuis sa création en 1984. Mais comme tu disais, ces dernières années, faute de moyens, Aide a dû fermer dans de plus en plus de villes. Donc dans certaines régions, par exemple la Bretagne et la Normandie, Aide n'est plus présent que dans une seule ville maintenant, donc soit en fait les capitales de région, donc Rennes et Rouen respectivement. On imagine bien que de nombreuses personnes vivant avec le VIH ou une hépatite ne peuvent plus être accompagnées dans ces régions. Enfin du moins, plus de la même façon, puisque la particularité de Aide, c'était de faire de ce qu'on appelle de l'accompagnement communautaire en santé, c'est-à-dire être soutenu et accompagné par des pairs, ce qui est souvent crucial pour des personnes qui sont éloignées du système de soins, qui sont précarisées, qui subissent des discriminations, comme la sérophobie par exemple. Donc la sérophobie, c'est le rejet des personnes vivant avec le VIH. Et malheureusement, eh bien, il va se passer un peu la même chose dans les Pays de la Loire. Aide va fermer son local à Angers à la fin du mois d'avril et ne sera plus présent qu'à Nantes et à Laval.
Et c'est encore une fois pour des raisons de baisse de moyens.
Voilà, c'est des décisions gouvernementales qui ont été imposées l'année dernière, donc d'importantes coupures budgétaires et d'autres décisions qui menacent l'existence même de Aide au niveau national. L'association pourrait être contrainte de disparaître complètement s'ils ne réajustent pas drastiquement leur fonctionnement. Et face à ça, Aide a pris la décision de fermer dans 5 villes de France, dont Angers.
Et il n'y a pas que des fermetures de locaux. Ils ont aussi lancé un gros plan de licenciement de leurs salariés.
Oui, c'est près de 60 postes qui vont être supprimés à l'échelle nationale. Concrètement, ça veut dire que les 2 salariés qui s'occupaient du local d'Angers vont perdre leur emploi là à la fin du mois. Donc on a une grosse pensée pour eux. Et pour tous les militants et toutes les militantes d'Angers qui donnaient de leur temps, de leur énergie depuis des années pour faire de la prévention, du dépistage, de la distribution de matériel de réduction des risques, de l'accompagnement collectif ou individuel pour les personnes vivant avec le VIH et les hépatites. Donc les militants et les militantes actuellement se mobilisent pour trouver des solutions de remplacement pour pouvoir continuer au moins en partie leurs actions. Et on vous tiendra au courant donc quand on en saura plus.
Et en attendant, si vous avez des besoins, eh bien vous pouvez vous adresser à d'autres structures.
Oui, donc par exemple, si vous avez besoin d'un dépistage, vous pouvez vous rendre directement au CEGID, donc qui est le centre de dépistage gratuit du CHU d'Angers.
Et puis maintenant, vous pouvez aller directement dans un labo, dans un laboratoire de ville, pour vous faire dépister du VIH. C'est sans ordonnance, sans rendez-vous, sans avance de frais pour tous. Et si vous avez moins de 26 ans, eh bien c'est la même chose, mais en plus, vous avez les dépistages de l'hépatite B, la syphilis, la gonorrhée et la chlamydiose.
Et si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement pour toute question concernant votre santé sexuelle et votre vie affective, Vous pouvez également vous rendre dans un des centres de santé sexuelle qui existent à Angers. Donc, par exemple, il y a le centre Flora Tristan du CHU d'Angers. Et vous pouvez aussi vous adresser au planning familial. Et puis, il y a l'association Quasar, qui est une association pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexes, qui propose également des ateliers de prévention en santé et qui peut vous accompagner aussi dans vos démarches ou si vous avez besoin d'écoute. Donc voilà, il existe d'autres possibilités pour vous. Et comme je disais, on vous tiendra au courant pour la suite des événements dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Dans la seconde partie de l'émission, grâce à Florian, vous saurez tout sur les hépatites virales. Hépatite A, B ou C n'auront bientôt plus de secrets pour vous, donc restez bien avec nous. Mais avant, passons à la pause musicale. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter une chanson d'un groupe qu'on avait déjà écouté ici. Il s'agit du groupe libanais Mashrou Leila. Ça nous paraissait important en cette période d'exprimer notre solidarité avec le peuple libanais, ainsi que tous les peuples qui subissent les assauts de guerres injustes et injustifiées.
Alors, on écoute Raksit Leila du groupe Mashrou Leila.
C'était Raxit Leïla de Machrou Leïla. Et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Ondes Positives avec Florian et Halima. Et d'ailleurs, Florian, tu vas nous parler de quoi maintenant ?
Alors, je vous propose de faire le point sur les hépatites virales, qui sont également considérées comme des infections sexuellement transmissibles. On y pense moins que le VIH, mais elles sont bien présentes dans notre quotidien. Il en existe plusieurs, elles sont lettrées de A à G. Donc on parle d'hépatite A, d'hépatite B, d'hépatite C, D, E et G. Et nous allons nous intéresser uniquement aux trois premières, hépatite A, B et C, les autres étant plus secondaires dans notre environnement.
Et pourquoi c'est important d'en parler ?
Parce qu'en fait, les virus impliqués dans les hépatites s'attaquent principalement au foie, un organe qui remplit plus de 300 fonctions essentielles du fonctionnement de notre organisme. Lorsque le virus de l'hépatite est présent, les cellules du foie se défendent, c'est la réponse immunitaire, et en se défendant, eh bien, elles rendent le foie plus fibreux et dur, réduisant sa capacité à se régénérer et à jouer son rôle normal. En fait, c'est ce qu'on appelle la fibrose ou la cirrhose. Et il y a différents stades de cirrhose, bien sûr, en fonction de l'évolution de la maladie.
Mais quand on a ça, on s'en rend compte, non ?
Eh bien, non, pas forcément, parce qu'on peut avoir des symptômes, mais on peut aussi ne pas en avoir, ou en tout cas passer à côté, dès les premiers mois de l'infection. Alors, en fait, on peut être fatigué, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des nausées, on peut aussi avoir les yeux jaunes, c'est ce qu'on appelle une sorte de jaunisse. Mais en fait, ça peut être des symptômes qui passent inaperçus parce que ça peut aussi être des symptômes d'autres maladies, comme une grippe ou un rhume, en fait.
Oui.
Voilà. Donc, le seul moyen de savoir si vous avez une hépatite virale, eh bien, c'est de vous faire dépister. Et puis, pour pousser la prévention au maximum, eh bien, vous pouvez être vacciné pour certaines hépatites uniquement, et on va voir ça tout de suite.
Exactement, et d'abord tu vas nous donner quelques informations sur chaque hépatite virale et sur leur mode de contamination.
Oui, tout à fait, alors on va commencer par l'hépatite A.
Voilà.
Donc le virus de l'hépatite A est présent dans les matières fécales des personnes atteintes et se retrouve nécessairement dans l'eau. Alors, pas de panique, hein, panneau trop du robinet, traité, filtré et propre. La contamination peut donc se faire par la bouche, par le contact avec de l'eau souillée ou des aliments impropres. L'hépatite A est donc fréquente dans des zones où l'hygiène est laissée à désirer, où l'évacuation des eaux usées n'est pas bien faite, et où les pratiques de désinfection sont limitées, voire absentes.
Ce qui n'est pas le cas en France dans la grande majorité des endroits. Donc, comment on se contamine ?
Oui, alors, tu as raison, effectivement, dans nos contrées, la principale source de contamination n'est pas forcément celle qui est liée à l'eau ou à des objets mal lavés ou de la nourriture mal lavée, mais on est plutôt sur une contamination de l'ordre sexuel, en fait, par des pratiques sexuelles, notamment l'anulingus ou le contact bouche-anus. Et puis, bien sûr, lors de voyages à l'étranger aussi, où, du coup, l'hygiène est pas très bien faite. Alors, on estime aujourd'hui que l'incidence de l'hépatite A est comprise entre 1,5 et 3 cas pour 100 000 habitants. Donc, c'est pas beaucoup quand même.
C'est peu, ça reste.
En France, voilà. Alors, il y a quand même quelques symptômes à connaître. Hein, donc, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Après une incubation de 15 à 50 jours, la moyenne est autour de 30 jours, eh bien, vous allez avoir de la fièvre, une fatigue qui est importante et qui persiste, et puis accompagnée souvent de nausées, voire quand même de douleurs abdominales, suivie donc d'une jaunisse, donc les yeux deviennent jaunes en fait, la partie blanche en fait devient jaune. Alors ça vaut pour l'hépatite A, ça vaut aussi pour l'hépatite B et la C.
D'accord, on parle maintenant de l'hépatite B.
Oui, tout à fait, après l'hépatite A, passons donc à l'hépatite B. Alors, l'hépatite B se transmet par des relations sexuelles sans préservatif, donc pénétration, fellation, cunnilingus, ou par du partage d'objets en contact avec du sang, même en quantité minime. On peut contracter l'hépatite B en cas d'échange de matériel d'injection de produits, de drogue, ou plus rarement de sniff, de piercing, de scarification. Ça passe aussi par les rasoirs, les brosses à dents, etc. Tous les petits matériels ou les ustensiles en fait de l'hygiène au quotidien. Et souvent, les contaminations se font dans un contexte familial, en fait, avec la promiscuité, par exemple. Et il faut savoir que le virus de l'hépatite B, donc on appelle VHB, reste infectieux jusqu'à 7 jours dans l'environnement. Donc en fait, il résiste bien.
Voilà, bien. Contrairement au VIH.
Tout à fait.
Contrairement. Qui, lui, n'a pas de résistance dans l'air. Voilà, quoi.
Une fois qu'il est hors du corps humain, effectivement, le VIH, lui, il meurt de façon presque instantanément, en fait. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les virus qui sont liés aux hépatites sont vraiment très résistants. Et c'est pour ça qu'en fait, les condamnations sont plus faciles, en fait, que le VIH. Alors, on a aussi la contamination par la salive lors de baisers, par exemple, qui semble possible. Attention, je mets des conditionnels, qui semble possible, mais qui reste très rare. Donc voilà, vous mettez pas la pression si c'est bon. Par ailleurs, une femme enceinte porteuse d'une hépatite B chronique peut la transmettre à son bébé durant la grossesse. Donc là, il y a vraiment des contaminations intra-utérines en fait, et à l'accouchement aussi, pareil. Alors, en 2021, en France, il y a eu un taux de découverte de 55 pour 100 000 habitants, ce qui fait un peu plus de 37 000 personnes diagnostiquées porteuses du virus de l'hépatite B. Et les personnes les plus en risque sont celles nées en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique occidental, ainsi que celles qui sont nées en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient.
Et qu'en est-il donc de l'hépatite C maintenant ?
Le virus de l'hépatite C, ou VHC, se transmet par le sang. Il concerne notamment les consommateurs de produits via le portage de matériel d'injection, donc comme l'hépatite B, et plus rarement le matériel de piercing, de scarification, de sniff ou de rasage. C'est un petit peu les mêmes modes de contamination que l'hépatite B.
Sauf que là, c'est que le sang.
Voilà, c'est beaucoup plus le sang frais, on va dire, que du matériel où il y a un peu de sang, mais ça va. Alors, jusque dans les années 90, il y a eu de nombreuses contaminations par transfusion sanguine, un petit peu comme
le sang contaminé.
Le scandale du sang contaminé, voilà. C'est un peu le même principe pour l'hépatite C. Alors, c'est plus le cas en France actuellement. Les précautions concernant le matériel médical, outils à usage unique ou désinfection ont vraiment été améliorées. Alors, l'hépatite C peut très rarement être transmise lors de relations sexuelles en cas de contact de sang à sang. Cela peut arriver, par contre, en cas de pratique dite « hard », ou sadomasochiste, sans protection, ou lors d'une pénétration non protégée par un préservatif, lorsqu'il y a des irritations ou des lésions chez les deux partenaires. Donc par exemple, si vous avez une affection sexuellement transmissible en cours, comme la syphilis par exemple, où souvent il y a des plaies, où il y a des chancres en fait, et ça peut être plutôt ouvert et il y a échange de sang en fait, là vous avez un risque de transmission de l'hépatite C, du virus de l'hépatite C.
Et c'est aussi possible pendant les règles ?
Oui, effectivement. Du coup, comme il y a sang, il peut y avoir transfert de sang en fait entre les deux partenaires. Et effectivement, le virus de l'hépatite C se transmet aussi quand il y a règles. Voilà. Alors, point de vigilance aussi pour les personnes qui pratiquent le fist ou le chemsex, notamment chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. On assiste à une forte hausse des contaminations depuis quelques années. Alors, il faut quand même dire que les contaminations les plus courantes se font dans le cadre de consommation de drogue, le plus souvent par voie intraveineuse. Et en 2021, en France, il y a eu un taux de découverte de 51 pour 100 000 habitants, ce qui fait un peu plus de 34 000 personnes diagnostiquées porteuses du virus de l'hépatite C. Les régions les plus à risque sont certains pays d'Europe de l'Est, notamment la Russie ou la Lettonie. Des pays d'Afrique, notamment l'Égypte ou le Gabon, d'Asie centrale et du Sud-Est, comme la Géorgie ou le Pakistan.
Voilà les informations essentielles sur les modes de contamination de chaque virus de l'hépatite et pour que vous puissiez justement vous adapter votre protection et vos manières de réduire les risques. Et pour ces hépatites, est-ce qu'il existe des traitements, voire même des vaccins ?
Alors oui, pas de panique, il y a des solutions de prévention et de traitement. Alors on peut commencer par l'hépatite A. Bonne nouvelle, l'évolution de la maladie est généralement bénigne. Après la phase aiguë, le corps élimine tout seul le virus. Mais il existe des formes prolongées, avec une fatigue marquée. Et d'ailleurs, la sévérité de la maladie s'accroît avec l'âge des patients. Cependant, il n'existe pas de forme chronique d'hépatite A. Il n'existe pas non plus de traitement spécifique de l'hépatite A. La disparition des symptômes de la maladie peut prendre plusieurs semaines, mais ils disparaissent. Il existe aussi un vaccin qui est fortement recommandé pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, quel que soit l'âge. Il est remboursé par la Sécurité sociale à hauteur de 65%, mais en général, la mutuelle complète le remboursement.
Et c'est un peu pareil pour l'hépatite B, non ?
Alors oui et non. parce que le virus de l'hépatite B est plus grave, il est plus résistant dans l'environnement, comme on vient de le dire. Mais tu as raison, dans la majorité des cas, le virus de l'hépatite B est éliminé du corps. On est alors guéri et immunisé contre l'hépatite B pour toujours. Mais elle peut aussi devenir chronique. Dans 2 à 10% des cas, elle est alors plus ou moins active selon les moments et on ne peut plus en guérir. Elle peut, après plusieurs années, provoquer des dégâts importants pour le foie. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, les cirrhoses et parfois donc un cancer du foie. Mais il existe un vaccin contre l'hépatite B qui est remboursé par la Sécurité sociale. D'ailleurs, en France, la vaccination contre le VHB est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018. Donc en fait, au fur et à mesure des années, la couverture vaccinale s'améliore et de moins en moins de personnes sont susceptibles d'être contaminées par le virus de l'hépatite B.
Et est-ce qu'il y a un traitement ?
Alors non, il n'existe pas de traitement qui guérisse l'hépatite B quand celle-ci est chronique. Cependant, les personnes vivant avec une hépatite B chronique sont mises sous traitement antirétroviral comparable à celui du VIH. Alors, c'est pas le même, mais c'est le même principe.
Ça a le même principe, c'est-à-dire que ça permet de garder et d'avoir une bonne santé en continuant le traitement, mais il faut le prendre à vie. Et pour l'hépatite C, est-ce qu'on en guérit ?
Alors, pour l'hépatite C, après la contamination, il n'y a le plus souvent aucun symptôme et certaines personnes arrivent à éliminer l'infection spontanément. Mais la personne n'est pas pour autant immunisée, puisqu'on peut être réinfecté par le virus de l'hépatite C. Et contrairement à l'hépatite B, eh bien, l'hépatite C devient chronique dans 80% des cas. Alors le virus reste dans le corps et se multiplie dans le foie. Après plusieurs années, il peut provoquer des dégâts importants, donc toujours la cirrhose et le cancer du foie. Mais des traitements permettent de guérir de l'hépatite C. Depuis 2015 et l'arrivée de nouveaux traitements, donc, qu'on appelle des antiviraux à action directe, la durée de traitement a été réduite de 3 à 6 mois, selon les cas, avec des taux de guérison très, très élevés, à plus de 95%, et avec beaucoup moins d'effets secondaires que les traitements précédents. Donc, par exemple, il y avait l'interféron à l'époque, mais c'était quand même un traitement assez problématique pour les personnes, pas mal d'effets secondaires, de douleurs, et les guérisons n'étaient pas du tout à 95%, elles étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que ça. D'ailleurs, les autorités sanitaires sont dans une vraie dynamique d'éradication de l'hépatite C. Depuis plusieurs années, l'accès au dépistage s'améliore et les prises en charge aussi, avec la suppression des obstacles, notamment financiers. Les restes à charge sont souvent supprimés. Et de plus, le dépistage VHC est de plus en plus intégré dans les parcours de prévention et de soins.
Et il y a un vaccin ?
Eh bien non, malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C.
Donc on le voit, en fait, chaque hépatite a ses spécificités. Et le meilleur moyen est encore de s'en prémunir en adaptant ses pratiques et en réduisant les risques. Quand les vaccins existent, eh bien, c'est se faire vacciner et bien sûr se faire dépister régulièrement. Vous pouvez vous rendre en laboratoire de ville ou au Cégide pour les dépistages. Il existe même du dépistage rapide dans certaines associations comme pour le VIH. Donc n'hésitez pas. L'émission touche déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez appris des choses sur ces virus parfois oubliés, parce que c'est moins médiatique que le VIH.
Et pourtant, elles ont deux journées dédiées. La journée nationale de lutte contre les hépatites, c'est le 25 septembre. Et la journée mondiale, cette année, ce sera le 28 juillet. Donc pensez-y, on en reparlera lors d'une prochaine émission.
Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires à nous faire sur l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez nous écrire sur notre Instagram à ONDP Radio G ou par email à ondp.radioG@gmail.com. On vous répondra directement ou à l'antenne. C'était Onde Positive et on se retrouve vendredi dans 15 jours, toujours à 9h10, avec un nouveau sujet toujours en lien avec la santé sexuelle, la prévention et la vie affective. Merci Florian.
Merci à toi aussi Alima.
Et d'ici là, prenez soin de vous.